I have felt impressed to speak about divorce.
Je me suis senti poussé à parler du divorce. C'est un sujet sensible parce qu'il suscite des émotions très fortes chez les personnes qu'il a touchées de différentes manières. Certains se considèrent, eux ou leurs proches, comme victimes du divorce. D'autres se considèrent comme ses bénéficiaires. Les uns voient dans le divorce une preuve d'échec, les autres le considèrent comme une issue de secours essentielle au mariage. D'une manière ou d'une autre, le divorce touche la plupart des familles de l'Église. Quel que soit votre point de vue, veuillez écouter, tandis que j'essaye de parler clairement des effets du divorce sur les relations familiales éternelles que nous recherchons selon le plan de l'Évangile. J'en parle parce que cela me préoccupe, mais avec espoir. Nous vivons dans un monde où le concept tout entier du mariage est en péril et où le divorce est banalisé. La notion que la société a fortement intérêt à préserver le mariage pour le bien commun, aussi bien que pour le bien du couple et de ses enfants, a été remplacée pour beaucoup par l'idée que le mariage n'est qu'une relation privée entre adultes consentants, à laquelle chacun peut mettre fin à volonté. Les pays qui n'avaient pas de loi sur le divorce en ont adopté une. Et la plupart des pays qui permettent le divorce l'ont rendu plus facile à obtenir. Malheureusement, en vertu des lois sur le divorce qui suppriment la notion de faute, il est devenu plus facile de rompre les liens du mariage avec un conjoint non désiré que le contrat de travail d'un employé non désiré. Certains vont jusqu'à qualifier un premier mariage de mariage en attendant, comme le petit logement qu'on habite un certain temps avant de passer à autre chose. Le déclin de la notion de permanence et du caractère précieux du mariage est lourd de conséquences. Influencés par le divorce de leurs propres parents ou par l'idée populaire que le mariage est un boulet au pied qui empêche de se réaliser, certains jeunes évitent le mariage. Beaucoup de ceux qui se marient s'abstiennent de s'engager pleinement, prêts à prendre la fuite à la première grosse difficulté. Or, les prophètes modernes ont averti que considérer le mariage comme un simple contrat que l'on peut signer selon son bon plaisir et dénoncer à la première difficulté est un mal qui mérite une condamnation sévère, surtout lorsqu'il y a des enfants qui en souffrent. Dans les temps anciens, et même en vertu des lois tribales de certains pays où nous avons maintenant des membres, les hommes ont le pouvoir de divorcer de leurs femmes pour n'importe quelle vétille. Le Sauveur s'est insurgé contre cette oppression inique des femmes en disant « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse celle qui est écartée commet aussi l'adultère. Le genre de mariage requis pour l'exaltation, éternel dans la durée et divin dans sa qualité, n'envisage pas le divorce. Dans les temples du Seigneur, les couples sont mariés pour toute l'éternité. Mais certains mariages ne progressent pas vers cet idéal. À cause de la dureté de notre cœur, le Seigneur n'impose pas actuellement les conséquences de la norme céleste. Il permet aux personnes divorcées de se remarier sans encourir la flétrissure de l'immoralité spécifiée dans la loi supérieure. À moins d'avoir commis des transgressions graves, le membre divorcé peut se qualifier pour une recommandation à l'usage du temple, en vertu des mêmes principes de dignité qui s'appliquent aux autres membres. Il y a beaucoup de bons membres de l'Église qui ont divorcé. C'est à eux que je m'adresse d'abord. Nous savons que beaucoup d'entre vous sont des victimes innocentes, dont les anciens conjoints ont constamment trahi les alliances sacrées, ou abandonné ou refusé de s'acquitter des responsabilités du mariage pendant une période prolongée. Les membres qui ont subi ces mauvais traitements savent au premier endroit qu'il y a des situations pire que le divorce. Quand un mariage est mort et qu'il n'y a aucun espoir de le ranimer, il est nécessaire d'avoir le moyen d'y mettre un terme. J'en ai vu des exemples aux Philippines. Deux jours après le mariage au temple, un mari a abandonné sa jeune épouse et on n'a plus entendu parler de lui pendant plus de 10 ans. Une femme mariée s'est enfuie et a obtenu le divorce dans un autre pays. Mais son mari, qui est resté sur place, est toujours marié aux yeux de la loi philippine. Du fait que le divorce n'est pas prévu dans ce pays, ces victimes innocentes de l'abandon n'ont aucun moyen de mettre fin à leur statut de personne mariée et de refaire leur vie. Nous savons que certains repensent à leur divorce en regrettant leur responsabilité, partielle ou majeure, dans la rupture. Tous ceux qui sont passés par le divorce connaissent la douleur et ont besoin du pouvoir guérisseur et de l'espoir qu'apporte l'expiation. Ce pouvoir guérisseur et cet espoir sont là pour eux et également pour leurs enfants. Je m'adresse maintenant aux membres mariés, particulièrement à ceux qui envisagent peut-être le divorce. Je vous exhorte vivement, vous et ceux qui vous conseillent, d'affronter la réalité que pour la plupart des problèmes du mariage, le remède n'est pas le divorce, mais le repentir. Souvent, la cause n'est pas l'incompatibilité, mais l'égoïsme. La première étape n'est pas la séparation, mais le changement de conduite. Le divorce n'est pas la panacée, et il entraîne souvent du chagrin à long terme. Une étude menée dans le monde entier sur le niveau du bonheur avant et après les grands événements de la vie révèle qu'en général, les gens retrouvent plus facilement le bonheur après la mort de leur conjoint qu'après un divorce. Les gens mariés qui espèrent que le divorce les aidera à mettre fin au conflit s'aperçoivent souvent qu'il les aggrave, car les complications qui suivent le divorce, surtout quand il y a des enfants, produisent de nouveaux conflits. Pensez d'abord aux enfants. Étant donné que le divorce sépare les intérêts des enfants de ceux de leurs parents, les enfants en sont les premières victimes. Les spécialistes de la question familiale nous disent que la cause la plus importante du déclin actuel du bien-être des enfants est l'affaiblissement actuel du mariage, du fait que l'instabilité familiale diminue l'engagement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Nous savons que les enfants élevés dans un foyer monoparental à la suite d'un divorce sont beaucoup plus menacés par la drogue et par l'alcool, les relations sexuelles hors du mariage, l'échec scolaire et diverses sortes de sévices. Un couple qui a de graves problèmes matrimoniaux devrait consulter son évêque. En tant que juge du Seigneur, il décidera des recommandations ou peut-être même d'une mesure disciplinaire qui conduiront à la guérison. Un évêque ne conseille pas aux membres de divorcer, mais il peut les aider à vivre avec les conséquences de leurs décisions. Selon la loi du Seigneur, un mariage, tout comme une vie humaine, est une chose précieuse et vivante. Si notre corps est malade, nous cherchons à le guérir. Nous n'abandonnons pas. Tant qu'il y a une chance quelconque de survie, nous cherchons obstinément la guérison. Il devrait en aller de même de notre mariage. Et si nous l'invoquons, le Seigneur nous aidera et nous guérira. Les conjoints qui sont membres de l'Église doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver leur mariage. Ils devraient suivre les conseils sur le mariage de la première présidence, publiés dans le Liaona d'avril 2007. Pour éviter ce que l'on dit être de l'incompatibilité, ils devraient être les meilleurs amis, gentils et prévenants, sensibles aux besoins l'un de l'autre, cherchant toujours à se rendre mutuellement heureux. Ils devraient être associés dans les finances familiales et collaborer pour gérer leurs désirs des choses temporelles. Bien entendu, il peut y avoir des moments où l'un des conjoints n'est pas à la hauteur et où l'autre est blessé et éprouve de la douleur. Quand cela se produit, celui qui est lésé doit faire la part des choses entre les déceptions du moment, ce qu'il y a eu de bon dans le passé et les perspectives d'amélioration à venir. Ne ressassez pas les torts du passé, ne les ruminez pas sans cesse. Dans les relations conjugales, les ressentiments sont destructeurs, le pardon est divin. Priez pour que l'Esprit du Seigneur vous guide, pour pardonner les torts, comme Président Faust nous l'a enseigné si merveilleusement, pour surmonter les défauts et pour fortifier les rapports. Si vous êtes déjà descendu dans les bas étages d'un mariage qui n'en a que le nom, donnez-vous la main, mettez-vous à genoux ensemble et suppliez Dieu de vous accorder l'aide et le pouvoir guérisseur de l'expiation. Vos supplications humbles et unies vous rapprocheront du Seigneur et l'un de l'autre et vous aideront à remonter la pente escarpée vers l'entente conjugale. Réfléchissez aux observations suivantes d'un évêque sage et fort d'une longue expérience des conseils aux membres ayant des problèmes conjugaux. En parlant de ceux qui ont fini par divorcer, il a dit « Tous, sans exception, ont dit qu'ils reconnaissaient que le divorce n'était pas une bonne chose, mais tous affirmaient que leur situation était un cas spécial. Tous, sans exception, mettaient en avant la faute du conjoint et attribuaient peu de responsabilité à leur propre comportement. Il n'y avait plus de communication. » Tous, sans exception, regardaient en arrière, refusant d'abandonner les bagages du comportement passé sur le bord de la route et de pouvoir repartir. Dans un certain nombre de cas, il y avait eu un péché grave, mais le plus souvent, leur amour s'était simplement refroidi et ils disaient « Il ne satisfait plus à mes besoins » ou bien « Elle a changé ». Tous s'inquiétaient des conséquences sur les enfants, mais la conclusion était toujours « C'est pire pour eux de nous avoir ensemble en train de nous disputer ». À l'inverse, les couples qui ont suivi les recommandations de cet évêque et sont restés ensemble en sont sortis avec un mariage plus fort. Cette perspective a commencé par leur engagement mutuel à respecter les commandements, à continuer d'aller à l'église, de lire les Écritures et de prier, ainsi qu'à travailler à leurs propres imperfections. Ils ont reconnu l'importance et le pouvoir de l'expiation pour leurs conjoints et pour eux-mêmes. Et ils ont été patients et ont essayé encore et encore. L'évêque a rapporté que quand les couples qu'elle a conseillés ont fait cela, en se repentant et en travaillant à sauver leur mariage, la guérison a eu lieu dans 100% des cas. Même ceux qui pensent que c'est entièrement la faute de leur conjoint ne devraient pas agir à la hâte. Une étude a trouvé, je cite, « Aucune preuve que le divorce ou la séparation ait typiquement rendu les adultes plus heureux qu'en restant dans un mariage malheureux. Deux adultes mal mariés sur trois qui ont évité le divorce ont signalé 5 ans plus tard qu'ils étaient heureux en ménage. Une femme qui a persisté à rester dans un mariage intolérable pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que les enfants soient grands, a expliqué. Il y avait 3 participants à notre mariage, mon mari, moi et le Seigneur. Je me suis dit que si 2 de nous pouvaient tenir le coup, nous pourrions sauver la mise. » Le pouvoir de l'espoir exprimé dans ces exemples est parfois récompensé par un repentir et un changement de conduite, mais parfois ce n'est pas le cas. Les situations personnelles sont très variables. Nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, et nous n'en sommes pas responsables, même lorsqu'ils ont un effet extrêmement pénible sur nous. Je suis sûr que le Seigneur aime et bénit les maris et les femmes qui essayent avec amour d'aider un conjoint aux prises avec des problèmes aussi tenaces que la pornographie ou tout autre comportement provoquant une dépendance ou avec les conséquences à long terme de mauvais traitements infligés à des enfants. Quel qu'en soit le résultat et aussi difficile que soient vos expériences, vous avez la promesse que les bénédictions de relations familiales éternelles ne vous seront pas refusées si vous aimez le Seigneur, respectez ses commandements et faites tout simplement de votre mieux. Lorsque le jeune Jacob connut des afflictions et beaucoup de tristesse causées par d'autres membres de la famille, son père Léhi lui assura « Tu connais la grandeur de Dieu et il consacrera tes afflictions à ton avantage ». De même, l'apôtre Paul nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour terminer, quelques mots à ceux qui envisagent le mariage. La meilleure manière d'éviter de devoir divorcer d'un conjoint infidèle, brutal ou égoïste est d'éviter le mariage avec ce genre de personne. Si vous souhaitez bien vous marier, renseignez-vous bien. Faire la connaissance de quelqu'un en traînant dans la rue avec lui ou en échangeant des renseignements sur l'Internet ne constitue pas une base suffisante pour le mariage. Il faut sortir ensemble. Ensuite, il doit y avoir des fréquentations suivies, soigneuses, réfléchies et approfondies. Ménagez-vous de nombreuses occasions de tester le comportement du futur conjoint dans diverses situations. Les fiancés doivent apprendre tout ce qu'ils peuvent sur la famille dont ils feront bientôt partie par le mariage. Ce faisant, il faut bien se rendre compte qu'un bon mariage n'exige pas un homme parfait ou une femme parfaite. Il exige seulement un homme et une femme qui sont engagés à faire des efforts ensemble vers la perfection. Le président Spencer W. Kimball a enseigné, je cite, « Un couple qui se rend à l'hôtel de mariage doit se rendre compte que pour parvenir au mariage heureux dont il rêve, il doit savoir que le mariage implique le sacrifice, le partage et même la limitation de certaines libertés personnelles. Il implique des économies rigoureuses, de longue durée. Il implique la venue d'enfants qui s'accompagnent de fardeaux financiers, de l'obligation de les servir, de la nécessité d'en prendre soin et de se faire du souci pour eux. Mais cela s'accompagne aussi des émotions les plus profondes et les plus douces qui soient. Je témoigne par expérience personnelle de la douceur du mariage et de la vie de famille que la déclaration sur la famille décrit comme fondée sur la responsabilité solennelle du mari et de la femme de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants et sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il est notre Sauveur et je prie en son nom pour tous ceux qui s'efforcent d'obtenir les bénédictions suprêmes d'une famille éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.